VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Lomé, 18h à Brazzaville. Bienvenue dans notre journal d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prévoit de consolider, par un soutien financier et logistique, la force régionale de 5 pays qui luttent actuellement contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram, selon un texte dont l'AFP a obtenu une copie aujourd'hui. Le Conseil de sécurité envisage aussi de sanctionner tous les soutiens au groupe islamiste nigérian. La Cour constitutionnelle du Togo a validé hier soir la candidature du président sortant Faure Gnassingbé. Bagassikoura.
Faure Gnassingbé briguera donc un troisième mandat le 15 avril malgré les protestations de l'opposition et de la société civile. Un projet de loi visant à limiter le nombre de mandats présidentiels avait été rejeté en juin 2014 par le Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire. Jean-Pierre Fabre, considéré comme le chef de l'opposition togolaise à la tête de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, apparaît comme le principal rival de Gnassingbé pour ce scrutin. L'opposition togolaise est très divisée et peine à parler d'une seule voix portée au pouvoir par l'armée à la mort du général Eyadema, son père, qui a gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans jusqu'en 2005. Faure Gnassingbé a remporté en 2005 et 2010 des scrutins présidentiels aux résultats contestés par l'opposition.
Côte d'Ivoire, ouverture du procès devant le tribunal militaire d'Abidjan de 14 membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. Crise qui avait fait plus de 3000 morts. Par ailleurs, face aux critiques après le procès de l'épouse de Laurent Gbagbo dans ce même contexte, le gouvernement ivoirien a démenti hier toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame ivoirienne pour les violences post-électorales. En Somalie, attaque meurtrière revendiquée ce jeudi par les islamistes d'Al-Shabaab à Baïdoa. Ils ont pris d'assaut une enceinte fortifiée abritant le siège du gouvernement local, l'aéroport, le QG de la force de l'Union africaine et des bureaux de l'ONU. Les premiers bilans font état d'au moins 12 morts, dont 5 insurgés. Jacques Aristide.
Les assaillants ont tiré sur plusieurs personnes à l'entrée du bâtiment avant d'y pénétrer, d'après son responsable à des forces de sécurité à Baïdoa. Trois d'entre eux sont morts en déclenchant les bombes qu'ils portaient sur eux et un quatrième a été abattu, tandis qu'un cinquième homme a été grièvement blessé d'après une source sécuritaire. Contacté par l'AFP, Abdulaziz Abou Moussa, porte-parole militaire du groupe Al-Shabaab, a revendiqué l'attaque, affirmant que le commando avait visé, dit-il, une réunion de sécurité entre le chef de l'exécutif régional, Sharif Hassan Sheikh Adan, et des responsables éthiopiens. Une source a déclaré que Sheikh Adan était sain et sauf. Il est depuis décembre à la tête du gouvernement intérimaire de la région sud-ouest, nouvelle autorité chargée d'administrer un ensemble regroupant les régions méridionales de Bé, Bakoul et de la Basse Chabelle dans le cadre du futur État fédéral somalien. Un référendum constitutionnel est prévu cette année avant les premières élections multipartites l'an prochain, un processus qui devrait doter à nouveau le pays d'une véritable autorité centrale dont il est privé depuis 1991.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est dit récemment préoccupé par le nombre croissant d'attaques contre les albinos, et ce notamment dans les pays d'Afrique orientale. Au Malawi, la police a annoncé l'arrestation d'un homme de 45 ans qui a tenté de tuer un albinos dans un pays marqué déjà par 6 meurtres rituels d'albinos depuis décembre dernier. En Tanzanie, ce sont plus de 200 sorciers qui ont été arrêtés depuis la mi-janvier, a annoncé aujourd'hui la police. Les organes des albinos utilisés pour des rituels de sorcellerie ou dans la confection de filtres sont vendus environ $600 à des prétendus sorciers ou guérisseurs. Mi-janvier, la Tanzanie a annoncé l'interdiction de la sorcellerie pour tenter d'endiguer ce phénomène.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, au Missouri, la ville de Ferguson a été le théâtre d'un nouvel accident. Deux policiers ont été grièvement blessés par balle ce matin lors d'une manifestation devant le commissariat de la ville. Le chef de la police de Saint-Louis parle d'embuscade. Les détails avec Salwa Jaafari.
Trois coups de feu provenant de quelque part derrière les manifestants. La foule panique. Deux officiers sont à terre. L'un touché au visage, l'autre à l'épaule. Ils sont aussitôt conduits aux urgences. Leurs blessures, quoique sérieuses, ne sont pas fatales, rassure le chef de la police de Saint-Louis. Le coupable ou les coupables sont toujours en cavale et les autorités n'ont pas encore fourni d'éléments de réponse quant à leur identité. Hier, le chef de la police locale, Thomas Jackson, a annoncé sa démission après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice qui détaillait les pratiques racistes de la police et de la municipalité de Ferguson. L'annonce n'a pas suffi à calmer les esprits. Quelques heures plus tard, une soixantaine de personnes s'étaient rassemblées pour protester devant le commissariat. L'incident d'aujourd'hui risque d'envenimer un climat déjà très tendu dans la ville. Ferguson a vécu l'an dernier des semaines de manifestations et d'émeutes après la mort le 12 août d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué de 12 balles par un policier, Darren Wilson, qui a depuis quitté la police sans être poursuivi.
De hauts responsables américains mettent en garde contre l'écart croissant entre les dépenses militaires américaines et européennes. Un avertissement qui intervient au moment où les États-Unis déploient des chars et des navires de guerre en Europe de l'Est dans le cadre des opérations de formation et des mesures pour contrer l'expansionnisme russe dans cette région. Les précisions de Félix Yepassi-Zembrou.
L'OTAN a lancé à plusieurs reprises des avertissements au sujet de la menace que constitue la Russie depuis son annexion de la Crimée il y a un an et son ingérence continue dans l'est de l'Ukraine. Au sommet de l'Alliance Atlantique de l'année dernière, au pays de Galles, les pays membres s'étaient engagés à consacrer au moins 2% de leur PNB à la défense. Toutefois, Lukács Kulesa du réseau européen de leadership affirme que, selon les analyses de son groupe, l'Estonie est le seul pays à même d'atteindre cet objectif en dehors des États-Unis. La Grande-Bretagne, alliée traditionnelle des États-Unis, figure parmi les pays pouvant rater l'objectif des 2% du PNB. Dans le même temps, la contribution des États-Unis à l'OTAN s'est accrue de manière soutenue, selon Lukács Kulesa. C'est plus de 70%, soit 20% de plus que durant la guerre froide. Et bien sûr, ce n'est pas sain, car cela amène certains pays à croire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de s'efforcer.
La progression de l'armée irakienne et des milices chiites a été ralentie jeudi dans Tikrit. Selon l'agence Reuters, des échanges de tirs sporadiques avec les combattants du groupe État islamique ont été signalés au lendemain de l'entrée des forces gouvernementales dans la ville. Michel Joseph.
Les djihadistes occupent en particulier le vaste ensemble de bâtiments présidentiels construits par l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein et l'utilisent comme quartier général. Ce complexe, ainsi que trois autres quartiers du centre de Tikrit, étaient encore tenus par les militants islamistes, selon une source au centre de commandement de l'armée irakienne. Elle ajoute que l'avancée des troupes était freinée par la présence de tireurs embusqués et de bombes posées par les djihadistes. La reprise de Tikrit par les forces gouvernementales constituerait un premier succès d'envergure pour l'armée irakienne, près d'un an après une débâcle spectaculaire qui a porté le groupe État islamique aux portes de Bagdad. Il s'agirait en outre d'une première étape en vue de la reconquête de Mossoul, la plus grande ville irakienne tenue par les djihadistes.
La justice française va enquêter sur l'assassinat d'un arabe israélien commis par le groupe État islamique actif en Syrie et en Irak. Assassinat impliquant un djihadiste francophone, c'est ce qu'a annoncé jeudi à l'AFP une source judiciaire. Sur les images d'une vidéo de Daesh, l'autre nom de l'État islamique, diffusée mardi dernier, on voit un djihadiste s'exprimant en français en compagnie d'un enfant d'une douzaine d'années qui semble exécuter avec un pistolet un homme présenté comme un espion d'Israël. Et enfin, des grandes ONG accusent jeudi la communauté internationale d'avoir trahi ses idéaux en n'ayant pas atténué la souffrance des millions de civils syriens dont la vie a été bouleversée par 4 années de guerre. Dans un rapport intitulé « Échec coupable en Syrie », 21 organisations de défense des droits de l'homme critiquent l'incapacité des États à faire appliquer une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 20 minutes pour Le Monde Aujourd'hui, présenté par Camille Grosdidier et Chérubin Dorsil. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur.